Vous écoutez RTL.
Il est midi et demi.
RTL Midi.
Le 12-30, Christelle Rebière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce jeudi 21 février, Matignon assure la défense de l'Élysée. Édouard Philippe répond au sénateur sur l'affaire Benalla et dénonce des recommandations incompréhensibles et injustes. Le pape François exige du concret. Le Vatican est réuni toute la hiérarchie de l'Église catholique jusqu'à dimanche sur les abus sexuels de mineurs. Il faudra réveiller les consciences et plus encore. Dans RTL Midi aussi, un jour de carence obligatoire pour tous en cas d'arrêt maladie. Autrement dit, vous ne serez pas payé. C'est la piste d'un rapport explosif remis au gouvernement. Nous verrons ce qu'en dit la CPME des petites et moyennes entreprises. Le breakdance, discipline olympique à Paris 2024, c'est une proposition que font les organisateurs. Il y a de la battle dans l'air. Les antidouleurs coûtent la vie à 4 personnes chaque semaine dans notre pays. Trop de prescriptions, des usages mal encadrés. Nous ferons le point avec Nathalie Richard de l'Agence du médicament. La météo, bonjour Patricia Charbonnier.
Bonjour.
C'est toujours le printemps.
Ah oui, les températures cet après-midi seront dignes d'un mois d'avril, jusqu'à 22 degrés au Pays Basque, 17 degrés à Strasbourg et La Rochelle, 16 à Paris, 15 degrés à Lille et Brest, 12 à Rennes et 11 à Cherbourg, avec un ciel bien dégagé. C'est du plein soleil sur une bonne partie du pays. Quelques passages nuageux quand même cet après-midi qui vont circuler entre la Bretagne, la Normandie, le nord de la région parisienne et les frontières du nord. Et puis des petites plaques de grisaille, très localement, sur les plages de la Manche et à l'opposé, sur les plages du Roussillon.
La question du jour sur RTL.fr, faut-il instaurer un jour de carence obligatoire pour tous? Vous dites oui à 73%, 22% de non. Vous pouvez continuer à voter sur RTL.fr. On attend vos appels au 3210, vos réactions sur Facebook et Twitter. Bonjour Pascal Praud.
Bonjour Christelle, je vous propose deux autres questions. Êtes-vous un catholique en colère ou abasourdi après les révélations qui touchent l'Église de Rome? Et puis la secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, a déclaré qu'il existait une convergence idéologique entre la manif pour tous et les terroristes islamistes. Que pensez-vous de ces paroles?
Au 3210, RTL vous donne la parole.
Des dysfonctionnements inacceptables, des mensonges au sommet de l'État. Hier dans RTL Midi, vous avez entendu la charge au vitriol de la commission d'enquête du Sénat contre l'Élysée à propos de l'affaire Benalla. Eh bien ce matin, c'est Édouard Philippe en personne qui a répondu aux attaques dans la cour de Matignon, dénonçant une enquête politique.
J'ai trouvé ces recommandations ou ces formulations incompréhensibles et souvent injustes. J'observe que dans les recommandations qui sont formulées par la commission d'enquête, un certain nombre concernent explicitement et exclusivement la présidence de la République et l'Élysée. J'en suis un peu surpris, car traditionnellement, la séparation des pouvoirs fait qu'il n'appartient pas ni à l'Assemblée nationale ni au Sénat de se prononcer sur l'organisation interne de la présidence de la République. En la matière, la commission d'enquête du Sénat et le Sénat ont choisi de se livrer à une appréciation qui est, je crois, très politique. Je n'en suis pas surpris, mais j'en suis un peu déçu.
Olivier Bost, c'est donc l'Élysée qui est attaqué, mais c'est le Premier ministre qui prend la défense du président.
Oui, alors en fait, c'est une réponse à plusieurs étages et qui va crescendo, si j'ose dire. Hier, c'est le porte-parole du gouvernement qui a parlé de contre-vérité. La garde des Sceaux en a rajouté dans l'après-midi. On n'est pas complètement dans le respect de la séparation des pouvoirs, a dit Nicole Belloubet. Et ce matin, c'est donc le Premier ministre qui répond vertement aux sénateurs sur le même registre. Le raisonnement de l'exécutif est simple. Le Parlement est élu, notamment pour contrôler le travail du gouvernement. Il n'est pas là pour se mêler du fonctionnement autour du président. Plusieurs réflexions et conseils des sénateurs ont été très très mal pris à l'Élysée, c'est peu de le dire, notamment lorsque les sénateurs écrivent qu'il y a des collaborateurs officieux au palais. Il s'agit de conseillers dont les embauches ne sont pas publiées au JO. L'Élysée répondra quand même point par point à ces accusations et aux 13 recommandations du Sénat dans les heures ou les jours qui viennent. La réponse promet d'être acerbe, encore énervée par le président de la commission d'enquête, un proche des Emmanuel Macron m'a posé la question il y a quelques minutes. Est-ce que Philippe Bas a toujours un gyrophare dans sa voiture, sans autorisation? Un gyrophare un peu comme un faux policier, un peu comme Alexandre Benalla, quoi.
Ça donne le ton. Voilà. Merci Olivier. De nouvelles inscriptions antisémites découvertes à Paris ce matin sur des façades d'immeubles et du mobilier urbain dans le 14e arrondissement. Une croix gammée à l'envers. On peut lire aussi « Dehors », « Sale juif » sur la porte d'un immeuble ou encore sur le banc d'un abribus. « Le temps est venu des actes », a dit Emmanuel Macron hier, pour lutter contre l'antisémitisme en particulier. particulier sur les réseaux sociaux. Il y aura un projet de loi au mois de mai avec des amendes pour les plateformes internet qui ne suppriment pas assez vite ce type de propos. Mounir Majoubil, secrétaire d'État en charge du numérique, exige un dispositif de modération capable de déceler des contenus haineux avant même leur publication. Le Vatican va enfin regarder les choses en face. Un sommet inédit dans l'histoire de l'Église catholique vient de s'ouvrir ce matin à Rome, consacré aux agressions sexuelles sur mineurs. Le pape François a donné le ton.
Le peuple de Dieu nous regarde et attend de nous non pas des condamnations simples et évidentes, mais des mesures concrètes et efficaces.
Jusqu'à dimanche, toute la hiérarchie de l'Église catholique va échanger sur ce sujet hautement tabou. Marie Guerrier, vous êtes au Vatican pour RTL et l'Église ne pourra pas se contenter de belles paroles.
Oui, la consigne de François est claire. Face au fléau de la pédophilie, écoutons le cri des petits qui demandent justice et surtout le pape martèle.
Il faut du concret.
Les évêques ont entendu ce matin à huis clos les témoignages enregistrés de 5 victimes, des récits terrifiants. Une Africaine frappée et abusée par un prêtre qui l'obligeait ensuite à avorter, un Chilien traité de menteur, un Américain qui parle de trahison. Dans la foulée de ces témoignages, le premier intervenant, le cardinal philippin Luis Antonio Tagle, a placé les évêques face à leurs responsabilités.
Notre manque de réponse à la souffrance des victimes, au point même de les rejeter et de couvrir le scandale pour protéger les auteurs, a blessé et profondément abîmé la relation avec ceux que nous sommes censés servir.
Un péché collectif insupportable, dit Monseigneur Pontier. En venant ici à Rome représenter la France, il savait bien qu'il faudrait aller au-delà de la simple compassion.
Et donc regarder dans le gouvernement de notre Église les changements, les progrès qu'il nous faut faire pour que notre maison Église devienne sûre pour les enfants.
Il y aura pendant ces 3 jours d'autres diffusions de témoignages. Le sommet s'organise autour d'intervenants, puis de travail en petits groupes. Il y a aussi des temps de prière. Hier, l'Église a plus que jamais besoin de demander l'aide de Dieu.
Marie Guerrier, Rome pour RTL. Comment enrayer la hausse des arrêts maladie? Édouard Philippe avait missionné en septembre 3 experts pour plancher sur ce dossier. Ils viennent de remettre leur rapport et parmi leurs 20 propositions, une a retenu notre attention. Un jour de carence obligatoire pour tous, autrement dit, un premier jour non payé en cas d'arrêt maladie, qu'on soit dans le public ou dans le privé. Que disent-ils exactement, Anaïs Bouissou?
Ils veulent appliquer aux salariés ce qui existe déjà pour les fonctionnaires. En cas d'arrêt maladie, un jour de salaire supprimé. Dit comme ça, ça pourrait s'entendre comme une simple mesure d'équité. Sauf que ça reviendrait pour les syndicats à baisser les droits des salariés malades. En fait, à l'heure actuelle, les premiers jours d'absence sont très souvent payés par les entreprises, compensés, ce qui deviendrait interdit si le rapport est appliqué. Ça s'appliquerait donc pour tout le monde, sans exception, et ce serait un jour de salaire rayé de la feuille de paie. Alors les rapporteurs savent bien que cette mesure serait particulièrement impopulaire pour les salariés, donc en échange, ils proposent des compensations, des contreparties qui cette fois font hurler les entreprises. Ces contreparties concernent le reste du salaire. Le mois complet en cas d'absence, les entreprises auraient l'obligation d'avancer de l'argent à la place de la sécurité sociale. Ce serait un gros effort pour une entreprise sur 2. Le maintien du salaire en cas d'arrêt maladie serait également ouvert à plus de monde, sans condition d'ancienneté dans l'entreprise, CDD et contrat de saison compris.
Les explications d'Anaïs Bouissou. Alors pour aller plus loin, nous sommes avec le secrétaire général de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises. Bonjour Jean-Eudes Duménil-Dubuisson.
Bonjour.
Un jour de carence obligatoire pour tous, sans compensation, c'est-à-dire un premier jour d'arrêt maladie non payé. Qu'est-ce que vous en dites ?
Il y a deux sujets. Il y a d'une part l'explosion des arrêts maladie, plus 5% par an, ça représente 7,5 milliards d'euros par an. Donc il faut impérativement trouver les moyens d'enrayer cette explosion, parce qu'on la paye tous, déjà. Mmh. Et de l'aveu même de la ministre de la Santé, dans ces arrêts de travail, il y en a 15% qui sont considérés comme abusifs, c'est elle-même qui le dit. Ça, c'est le premier sujet.
Donc vous êtes assez d'accord pour l'instant ?
Jusque-là, oui.
Sur le...
Le deuxième point sur le jour de carence d'ordre public. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et c'est là où je suis pas tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que il y a un jour de carence pour le secteur public et 3 jours de carence pour le secteur privé. En clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes dans le secteur privé, vous n'êtes pas payé pendant les trois premiers jours d'arrêt maladie. Sauf s'il y a un accord d'entreprise ou un accord de branche. Effectivement, ça concerne...
Ce qui est souvent le cas.
Effectivement, c'est souvent le cas. Mais attention, parce que dans la fonction publique, quand on nous dit qu'il n'y a pas de compensation, il y a aussi, dans un certain nombre de collectivités territoriales, des cas où il y a compensation. Donc aujourd'hui, de dire qu'on voudrait avoir un jour de carence d'ordre public, c'est-à-dire qu'il serait impossible d'y déroger et personne ne serait payé le premier jour d'arrêt maladie, c'est une simple mesure d'équité. Et là encore, je voudrais
rappeler... Ça veut dire que ça vous coûterait moins cher aussi, vous, aux entreprises, donc vous êtes plutôt favorable, puisque aujourd'hui, vous l'accordez ce jour-là.
Mais bien sûr que non. Dans un très grand nombre de petites entreprises notamment, vous n'êtes pas payé pendant 3 jours. Et là, dans le rapport, il n'est absolument pas dit qu'il y aura un jour pour tout le monde. On dit simplement que c'est un jour d'ordre public. Autrement dit, celui-là, il s'imposera. Mais on n'a pas entendu dire qu'on allait supprimer les 3 jours de carence dans le secteur privé.
Non.
Et qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Parce qu'il y a évidemment un lien entre l'indemnisation et le nombre de jours d'arrêt maladie. C'est qu'on a, dans le secteur public, on a 15 jours d'arrêt maladie par an. En moyenne. Dans le secteur privé, on a 12 jours. Et les indépendants, qui sont les plus mal couverts, en moyenne, on a 3 jours d'arrêt maladie. Donc, vous voyez bien qu'il y a effectivement un lien entre les deux. Et c'est une mesure.
De toute façon, il y a une chasse aux abus à faire. Après, le problème, à mon avis, ce qui vous concerne, c'est l'histoire des compensations.
Alors, c'est là où effectivement
le bât
blesse.
Et là, vous n'allez pas être d'accord.
C'est qu'on nous dit ce jour de carence d'ordre public pourrait s'appliquer. Donc, celui-là, oui, on est prêt. Et encore une fois, c'est une équité entre secteur public, secteur marchand et entre petites et grandes entreprises. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi des écarts. Voilà.
Donc, en revanche, vous n'êtes pas d'accord sur.
Alors, sur les compensations, qu'est-ce que c'est les compensations qui sont envisagées? La première chose, c'est de dire qu'aujourd'hui, quand un salarié est en arrêt maladie, l'employeur ne prend pas nécessairement en charge tout de suite en termes de trésorerie, et c'est la sécurité sociale qui paye, c'est-à-dire qui verse l'argent. Aujourd'hui, on est en train de nous dire demain ce qui pourrait se passer, c'est que dorénavant, ça serait l'employeur qui prendrait en charge dès le premier jour et se ferait ensuite rembourser par la Sécu. Mais très concrètement...
Et là, problème de trésorerie pour vous.
Bien sûr, dans les petites boîtes, quand vous avez un salarié qui est en arrêt, vous êtes forcé d'embaucher quelqu'un d'autre, donc vous sortez un nouveau salaire et vous ne pouvez pas continuer à payer la personne qui est en arrêt maladie, même si vous êtes remboursé par la suite. En termes de trésorerie dans les TPE, on va avoir un vrai souci là-dessus.
Merci beaucoup, merci d'être intervenu dans RTL Midi. Jean-Eudes Duménil-Dubuisson, bonne journée.
Merci.
Le suspense sur la reprise de la scierie Ascoval de Saint-Saulve dans le Nord qui emploie plus de 280 personnes. Le groupe Altifor qui est pressenti pour reprendre le site n'a pas totalement bouclé son financement mais n'a pas non plus baissé les bras, d'autant qu'Ascoval a désormais de nouveaux clients. Dans un instant, on passe à table avec les jeunes et vous allez voir que leurs assiettes ne ressemblent pas à l'idée que vous en faites.
RTL Midi avec Christelle Rebière.
Le bio, c'est plus bobo. 12% des Français déclarent acheter des produits bio chaque jour. Le nombre de consommateurs s'élargit et leur profil change. Surprise, les 18-24 ans s'y mettent. Et d'après le sondage réalisé par l'agence bio qui regroupe les professionnels, c'est pas pour des raisons de santé qu'ils quittent la malbouffe, Virginie Garin.
Non, les très jeunes ne voient pas le bio comme leurs parents. Dans la population générale, la première motivation d'acheter bio, c'est la santé. Un argument d'ailleurs qui fait toujours débat. Eh bien, chez les moins de 24 ans, c'est surtout le respect de la nature, du climat et du bien-être animal. Florent Gull dirige l'agence bio.
Ils ont des motivations assez différentes. Ce qui arrive de façon plus importante pour eux, c'est l'environnement. Ils ont deux préoccupations qu'ils citent beaucoup plus que leurs aînés, qui sont le respect du bien-être animal et les raisons de consommer bio liées à l'éthique et au social. Donc cette jeune génération qu'on voit aujourd'hui se mobiliser sur les sujets climat en particulier, on la retrouve sans doute beaucoup dans ces questions autour de la bio.
Et pour que les vaches et les cochons soient mieux élevés, pour que les agriculteurs puissent vivre de leur métier, pour qu'il y ait moins de pesticides dans la nature, eh bien les moins de 24 ans disent qu'ils sont prêts à payer un peu plus cher. Pourtant, ils ont en général moins d'argent que leurs aînés.
Et le bio représente aujourd'hui 6% de la surface agricole de notre pays et 12% des emplois. Il faut savoir que c'est un secteur qui embauche. Le Nutella bio n'existe pas encore, mais son principal site de fabrication au monde, situé en Normandie, est à l'arrêt. Ferrero a décidé de suspendre sa production par précaution, sans plus de précision. Frédéric Veil, vous êtes devant cette usine à Villers-et-Cales, en Seine-Maritime, où cette affaire est quasiment de l'ordre du secret industriel.
Oui, l'usine est à l'arrêt et ce matin, eh bien, ce sont des techniciens gilets fluo et casques sur la tête qui entrent et qui sortent du bâtiment principal, là où l'on fabrique la célèbre pâte à tartiner. Usine à l'arrêt donc, mais aucune information de la direction de Ferrero qui ne souhaite pas s'exprimer, qui tient ici la presse à distance, si bien que seul le communiqué envoyé aux médias nous indique que la ligne de production est arrêtée, car mardi, en fin d'après-midi, à la lecture des résultats d'un des contrôles de qualité, un défaut a été été détectée au niveau d'un des produits semi-finis qui entrent dans la fabrication de la pâte à tartiner, mais aussi de la barre chocolatée. Alors, selon ce communiqué, puisqu'il faut s'en tenir à cela, aucun produit sur le marché n'est impacté. C'est par principe de précaution que la production est suspendue le temps des investigations, dont les résultats sont attendus en fin de semaine. Pour rappel, l'usine ici à Villers-et-Cal, c'est 25% de la production mondiale de Nutella.
Frédéric Veil, un incendie ce matin dans un immeuble de 14 étages à Aulnay-sous-Bois. Un homme d'une soixantaine d'années est décédé, deux pompiers grièvement blessés. Le feu se serait déclaré au deuxième étage, probablement à cause d'une cigarette mal éteinte. Il a été maîtrisé dans la matinée. Morad Djabari, vous êtes sur place pour RTL, dans un gymnase tout proche de cet immeuble où les 70 personnes évacuées attendent de pouvoir regagner leur logement.
Absolument, ils sont en peignoir, en chaussettes, en pyjama. Les habitants ont trouvé refuge dans ce petit gymnase à quelques mètres de leur immeuble. Parmi eux, Moussa, il a alerté, réveillé à lui seul la tour de 15 étages.
6h38 exactement, je suis sorti de chez moi pour aller travailler. J'ai senti le feu et je me suis penché par la fenêtre et c'est là que j'ai vu qu'il y avait du feu au niveau du deuxième étage. Du coup, il fallait alerter tout le monde. Du quatrième au neuvième étage, on a fait du porte-à-porte, on a toqué, sonné dans toutes les portes, on a tapé.
Pour réveiller les habitants, comme Asma, elle vit au sixième étage, très choquée, elle est dans le gymnase soutenue par la cellule psychologique.
J'étais en train de dormir et j'ai pris peur. Je suis allée vers l'escalier parce que l'ascenseur ne marchait pas. Il y avait vraiment de la fumée, c'était tout noir. Je suis arrivée au quatrième étage, il y avait les pompiers. J'ai vraiment eu peur.
Une soupe est en train d'être distribuée et des jeux, des ballons aident les enfants à patienter. Daniel attend tranquillement avec ses voisins.
Fior est arrivé au gymnase, 7h30 par là, le temps que la mairie nous envoie des cartes pour ramener tout le monde ici. C'est le psychologique, il y a des infirmiers. L'incendie est maîtrisé depuis longtemps, mais il reste les fumées, il faut évacuer. Donc pour l'instant, on attend.
D'après les pompiers, l'ensemble des habitants devraient retrouver leur appartement dans le milieu de l'après-midi.
Morad Djabari à Aulnay-sous-Bois. Une pause et dans un instant, les antidouleurs ne vous veulent pas que du bien.
RTL Midi avec Christelle Robière.
Les antidouleurs nuisent gravement à la santé et c'est d'autant plus inquiétant que les Français en raffolent. D'après l'Agence du médicament, 10 millions de Français en ont pris sur ordonnance en 2015. Un chiffre en très forte augmentation, tout comme le nombre d'hospitalisations qui lui a triplé entre 2010 et 2017. Or, Odile Pouget, ces médicaments sont tout sauf anodins.
Oui, en effet, ces molécules très utiles pour soulager les douleurs présentent les mêmes propriétés que l'opium et peuvent entraîner les patients dans une spirale d'addiction. Alors on distingue deux classes. D'un côté, les opioïdes faibles, c'est par exemple la codéine ou le tramadol. La consommation de ce dernier, par exemple, a grimpé de plus de 60% en 10 ans. Médicaments auparavant en vente libre et qui, depuis juillet 2017, sont délivrés sur ordonnance non renouvelable. Et puis, il y a les opioïdes forts, classés comme stupéfiants, morphine, oxycodone, fentanyl. Leur prescription a été multipliée par 2,5 en 10 ans. Il nécessite une ordonnance sécurisée. Initialement destinés aux douleurs du cancer, ils sont aujourd'hui prescrits à 88% pour d'autres douleurs chroniques, du dos ou des articulations par exemple. Et l'on voit apparaître aujourd'hui, selon l'ANSM, des patients devenus dépendants qui se retrouvent hospitalisés pour une surdose ou un syndrome de sevrage, en majorité des femmes de plus de 60 ans. Plus grave encore, il y a ces décès en très forte augmentation liés à la consommation d'opioïdes, au moins 4 décès par semaine aujourd'hui, selon l'Agence du médicament.
Alors, avec nous en studio, Nathalie Richard, directrice adjointe des médicaments antalgiques et stupéfiants à l'Agence du médicament, justement. Bonjour.
Bonjour.
Finalement, si j'ai bien compris, il y a un peu une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est qu'on prend mieux en charge la douleur. La mauvaise, c'est que ces médicaments sont souvent mal utilisés.
Alors oui, effectivement. Donc, ce que ce rapport montre, c'est qu'on a une augmentation très importante de la consommation des opioïdes. Et ça, c'est une bonne nouvelle dans la mesure où c'est vrai que la douleur doit être bien prise en charge. Et très longtemps en France, elle a été mal prise en charge et pas assez, avec une peur justement de ces antalgiques opioïdes. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors c'est vrai que là, par contre, la moins bonne nouvelle, mais c'est quelque chose qu'on surveille depuis un certain temps, c'est qu'effectivement, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de mésusages et de problèmes qui sont liés à cette consommation.
Alors, le mésusage, c'est quoi exactement ?
Alors, le mésusage, c'est par exemple le patient qui va utiliser un antalgique opioïde, pas pour soigner sa douleur, mais parce qu'il se sent mieux. Ou alors, c'est un patient qui va prendre plus... Non,
je ne comprends pas. Parce qu'il se sent mieux, je ne comprends pas la logique.
C'est-à-dire que, par exemple, avec les effets que le patient va ressentir, Ouais. Ils préfèrent, ça lui fait du bien.
Ça va au-delà de l'antidouleur.
Ça va au-delà de l'antidouleur. Mais en général, ce sont aussi des patients qui ont initié un traitement dans un cadre tout à fait normal. Ce sont des patients à qui on a prescrit un antidouleur, mais qui du coup se retrouvent, au bout d'un certain temps, accroché avec cet antidouleur.
C'est ça, en fait, il y a une accoutumance.
C'est ça, en fait. Ce sont
en particulier avec les opioïdes forts, j'imagine.
Alors, ce n'est pas en particulier avec les opioïdes forts. C'est-à-dire qu'on a ces deux catégories de médicaments, opioïdes forts et faibles, qui sont tous les deux dérivés de l'opium. Donc, en termes d'accoutumance...
C'est pareil.
C'est pas exactement pareil en termes de puissance, mais le risque de dépendance est le même.
4 décès par semaine, Odile Pouget disait tout à l'heure, c'est quand même énorme. Ça veut dire qu'on a banalisé finalement ces produits? On est tombé dans l'excès inverse?
Alors, non, on ne banalise pas ces produits. Par contre, ce qu'on voit et ce que je disais aussi, c'est que bien évidemment qu'on a une augmentation des problèmes avec ces médicaments. On a donc des mésusages avec ces médicaments et on a effectivement des surdoses avec ces médicaments également. Mais ce n'est pas lié forcément à une banalisation, c'est aussi lié justement à ces problèmes de mauvaise tolérance de ces produits. Et c'est ça en fait qu'il faut vraiment...
Est-ce qu'il y a un problème aussi de prescription de la part des médecins? Est-ce qu'ils savent toujours exactement à quel moment, à quel moment prescrire ces opiacés ou pas?
Ce qui est clair, c'est qu'il faut, en tous les cas, au vu des résultats que l'on constate par rapport aux données de ce rapport, c'est que ce qu'on voit, c'est que bien sûr, il faut renforcer l'information des médecins, qui souvent ne savent pas forcément qu'ils prescrivent un antalgique opioïde.
D'accord.
En particulier le tramadol, ce n'est pas forcément évident pour eux que c'est un antalgique opioïde. Donc il faut renforcer l'information des médecins. Concernant les indications de ces antalgiques, concernant la bonne utilisation de ces antalgiques, il faut également inciter les médecins à surveiller les patients à qui ils prescrivent ces médicaments.
Ne pas hésiter à leur demander de revenir en cours de traitement pour faire le point avec eux, et ce qui est une certaine façon, une certaine manière de les surveiller.
Alors en fait, il faut vraiment aborder avec les patients, et en particulier ceux qui reviennent parce qu'ils veulent une ordonnance qui, par exemple, n'est pas tout à fait finie, mais qui reveulent une ordonnance avec des doses supplémentaires. Ouais. Ces patients-là, oui, il faut que les médecins puissent les identifier, et c'est effectivement du côté des médecins quelque chose qui n'est pas forcément encore connu.
Est-ce qu'on pourrait miser aussi sur d'autres disciplines alternatives comme la sophrologie par exemple ou la psychothérapie?
La prise en charge de la douleur est complexe, mais c'est vrai qu'on a des médicaments actuellement qui sont des médicaments efficaces, donc ça ce n'est pas absolument pas remis en cause. Par contre, on peut tout à fait associer différentes modes de traitement pour soigner la douleur et pas forcément des médicaments, effectivement.
Merci beaucoup Nathalie Richard, merci d'avoir été l'invitée d'RTL Midi. Paris 2024 en mode Jones. Les organisateurs des Jeux Olympiques proposent de faire entrer 4 nouvelles disciplines en tant que sport invité. Le skateboard, l'escalade, le surf et ça. Le breakdance, cette danse acrobatique venue de la culture hip-hop. Jean-Michel Rascol, vous allez devoir vous mettre au freeze, au spin et aux tricks.
Oui, le tout sous forme de battle. 16 filles, 16 garçons, 2 champions olympiques, si toutefois le CIO accepte cette nouvelle discipline. Loin d'être ignorée d'ailleurs par la ministre Roxana Maracineanu.
Alors je connaissais très bien le breakdance, puisque pendant des années, notamment ces dernières années, j'ai organisé des stages natation breakdance, figurez-vous. Donc je suis tout à fait convaincue que le breakdance est un sport.
Un sport représenté par le champion du monde français ce matin de la discipline, Mourir Biba. Plutôt gymnaste d'ailleurs ou plutôt danseur?
Plutôt des breakdancers. Donc on est des danseurs qui bien sûr avons des origines liées à la gymnastique, mais pas seulement. Ce sont des origines qui vont de la capoeira, qui vont jusqu'aux arts martiaux, jusqu'aux arts du cirque. Donc c'est vraiment un mélange des genres qui a été puisé dans les différents langages pour créer son propre langage.
Peu de licenciés, mais des millions de followers sur les réseaux. Tony Estanguet, le patron de Paris 2024, présente sa carte jeune.
Moi, ce que je trouve formidable dans le breakdance, c'est que ça permet d'apporter un univers qu'on n'a pas aujourd'hui dans le programme. C'est cette connexion avec ce nouveau public, cette facilité, ce format de compétition en battle. On connecte avec les jeunes, on va chercher un univers musical qui est aussi très important aujourd'hui dans la consommation qu'on a du sport. Et c'est pour moi une révolution.
Le langage de la pétanque, celui du carreau, du cochonnet, Christelle, et du coup recalé, comme celui du billard et de la course d'orientation.
Bon, et on saura définitivement le CIO...
Décembre 2020.
Voilà, merci Jean-Michel. Vous lancez une battle au 32-10, Pascal Praud, dans 10 minutes.
Je suis atterré. Le bilboquet, pourquoi pas le bilboquet aux Jeux Olympiques? Pourquoi pas?
Mais non, puisqu'il n'y a pas la pétanque, je ne sais pas pourquoi il y aurait le bilboquet.
Non, mais c'est pas un sport, le breakdance. Si.
Mais pourquoi?
La valse aussi, on peut mettre, mais la valse.
Open your mind.
Ah oui, on peut faire Pascal. N'importe quoi, évidemment. êtes-vous un catholique en colère? C'est la question qu'on va poser. Êtes-vous un catholique en colère après, ou abasourdi, hein, peut-être, après les révélations que vous entendez quasiment quotidiennement sur l'Église de Rome? Je vous propose également de réagir aux propos de la secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, qui a souligné l'existence d'une convergence idéologique entre la Manif pour tous et les terroristes islamistes. Vous pourrez également répondre à cette question. Faut-il créer un fichier ADN des chiens pour sanctionner les propriétaires, de telle sorte que lorsqu'ils leur auront laissé ce qu'il ne faut pas laisser par terre, hop, ADN du chien, donc on sanctionne le propriétaire parce qu'il a été obligé de donner l'ADN du chien. Vous m'avez suivi?
Ah bah très bien, hein, et ça sortait pas très bon.
Et j'ai écouté Cypri Yassini ce matin et ça se passe à Andorre, oui, maintenant. On va criminaliser, pénaliser ou délictualiser les propriétaires de chiens. Ils paieront une amende lorsque le chien aura mal fait. Et par l'ADN.
Ça y est, il est passionné.
Non mais ça, c'est un vrai sujet.
C'est un vrai sujet, allez, à tout à l'heure. La météo aussi, c'est un vrai sujet, Patricia. L'anticyclone se porte bien, nous aussi.
Je peux vous dire qu'il est solide, l'anticyclone. C'est ce qu'on appelle en météo une situation de blocage. Aucune perturbation à l'horizon avec cet anticyclone. On a simplement un petit apport d'humidité, donc localement des petites plaques de grisaille sur les départements côtiers de la Manche et du côté du Roussillon. Sinon, partout ailleurs, c'est plein soleil, quelques nuages qui circulent entre la Bretagne, la Normandie, le nord de la région parisienne et les frontières du nord, et le tout dans la douceur. Cet après-midi, on a encore, allez, 10 degrés au-dessus des normales de saison. 22 à Biarritz, 19 à Agen, 17 à Strasbourg et La Rochelle, 16 degrés à Paris, 12 à Rennes et 11 à Cherbourg.
Et demain, tout pareil.
Même tendance, toujours un petit peu de grisaille le matin, des nuages bas, des brouillards au nord de la Loire et très localement, cette grisaille pourrait persister dans l'après-midi sur le quart nord-est. Ce sera du soleil ailleurs, des températures contrastées. C'est vrai que c'est frais le matin, on a toujours des gelées, moins 3 degrés à Nevers, 1 degré à Toulouse, 7 à Nice et dans l'après-midi, 13 à 23 degrés, 13 à Nancy, 17 à Paris et 23 à Perpignan. Et ça va continuer comme ça jusqu'à mercredi prochain.
On vous adore. Merci Patricia. Dans un instant, le rappel des titres avec Quentin Vinet. Il est 13h.
Le tout info, des auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec vous Quentin Vinet, bonjour.
Bonjour à tous, et le suspense sur la reprise de l'acierie Ascoval dans le nord près de Valenciennes qui emploie plus de 280 personnes. Le groupe Altifort qui est pressenti pour reprendre le site n'a pas totalement bouclé son financement mais il n'a pas baissé les bras, d'autant qu'Ascoval a désormais de nouveaux clients. Réaction sur RTL de Ludovic Bouvier, responsable CGT dans le nord.
Je ne suis que à moitié surpris, hein. Ça commence à bien faire, quoi, cette affaire. C'est où on reprend ou on reprend pas, c'est où on s'engage ou on s'engage pas, quoi. Il peut pas avoir de demi-mesure. Faut arrêter de prendre les salariés pour des idiots. On replonge les salariés dans le désarroi, à chaque fois. Et ça, c'est pas correct. Et en plus, d'un point de vue industriel, il y a pas lieu que, on ferme cette acierie. S'il n'y a pas cette reprise, la suite, elle est assez simple, hein. Les salariés vont se retrouver sans boulot.
Réaction au micro de Charlotte Baris. Encore des inscriptions antisémites découvertes ce matin à Paris, dans le 14e arrondissement, cette fois dans le sud de la capitale. Les mots « sale juif » et des croix gammées à l'envers ont été tagués sur des façades d'immeubles et du mobilier urbain. La riposte d'Édouard Philippe. Le Premier ministre dénonce les conclusions incompréhensibles et injustes des sénateurs qui pointaient hier des dysfonctionnements majeurs au sommet de l'État dans l'affaire Benalla. Une appréciation très politique, selon Édouard Philippe. Le gouvernement qui reprend la main dans la réforme de l'assurance chômage. Les négociations sont au point mort. Patronat et syndicats n'arrivent pas à s'entendre. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, le regrette.
Je le dis, nous regrettons en grade vivant que la négociation entre les partenaires sociaux sur l'assurance chômage n'ait pas pu aboutir, se conclut par un échec. Bon, maintenant on prend acte. Et donc, évidemment, les sujets de l'assurance chômage restent entiers. Un recours au travail précaire qui devient beaucoup trop important. Ça, il faut le réguler. On a toute une série de sujets à traiter. Donc, bien sûr, le gouvernement va prendre ses responsabilités. Et dans quelques jours, au début de semaine prochaine, nous annoncerons le calendrier, la méthode.
La ministre avec Anaïs Bouissou pour RTL. Un dramatique incendie ce matin à Aulny-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Une personne âgée est morte et deux jeunes pompiers sont grièvement blessés. Le feu a pris vers 7h du matin dans un immeuble qui n'était pas vétuste. Un sommet inédit depuis aujourd'hui au Vatican. Des dirigeants de l'Église catholique
catholiques du monde entier se réunissent jusqu'à dimanche pour évoquer les récents scandales d'abus sexuels. Le peuple de Dieu nous regarde et attend des mesures concrètes. C'est ce que dit le pape François. C'est confirmé, le Tour de France partira bien du Danemark en 2021. Ce sera le 10e départ à l'étranger pour la Grande Boucle et surtout le départ le plus au nord de l'histoire. Vous confirmez, Nicolas Georgerot, vous êtes au Danemark pour RTL.
Oui, jamais le Tour n'est parti d'aussi loin, à 1300 km de Paris. Trois étapes pour démarrer l'édition 2021, avec notamment un contre-la-montre de 13 km dans les rues de la capitale danoise. Un coup de projecteur formidable selon le prince héritier Frédéric, fervent défenseur de la Grande Boucle.
C'est un très grand honneur pour le Danemark. On pourra vraiment montrer à tous les spectateurs du monde la beauté de notre pays.
Les premiers contacts avec les organisateurs remontent à plus de 10 ans. L'idée a fait son chemin. La plus grande course de vélo dans un pays qui fait tout pour la pratique du vélo. Cela avait un sens selon le patron du Tour, Christian Prudhomme.
J'ai été impressionné et même estomaqué par le nombre de personnes circulant à bicyclette dans la ville. C'est très très impressionnant. Et nous souhaitons depuis de longues années densifier ce lien-là entre la bicyclette du quotidien et le vélo des champions, qui est évident dans nombre de pays, qui ne l'est pas toujours en France, alors que ça va de soi dans les pays comme la Belgique, les Pays-Bas ou justement le Danemark.
Le Tour de France comme étape supplémentaire. En 2011, Copenhague avait accueilli les mondiaux. En 2012, le pays avait également servi de cadre au départ du Tour d'Italie.
Nicolas Georgerot, Danemark pour RTL. Le breakdance, le skateboard, l'escalade et le surf. Ces quatre sports seront peut-être au programme des Jeux Olympiques de Paris en 2024. Ils sont proposés par les organisateurs avant la décision finale l'an prochain. Un nouveau sponsor pour le Paris Saint-Germain en football à partir de la saison prochaine. La marque Hall du groupe Accor remplacera Emirates sur le maillot du PSG, qui cherche à contourner le fair play financier en augmentant ses recettes commerciales. Le point à la Bourse de Paris, comme tous les jours sur RTL avec Investir les Échos. Rémi Le Bailly, la bourse est stable mais on constate de fortes variations parmi les valeurs, c'est bien ça ?
Oui, alors ça peut paraître étonnant, mais ça arrive notamment en période de publication de résultats. Et nous sommes en plein dedans en ce moment. Et donc, certains résultats sont applaudis quand d'autres sont sanctionnés. Mais globalement, c'est vrai, le pour et le contre se compensent, puisque le CAC 40 varie assez peu. Hein, il gagne 0,12% à 5202 points. D'autant que sur le plan macroéconomique, les informations sont là aussi contrastées. La poursuite des négociations commerciales entre la Chine et les États-Unis rassure, mais en même temps, les indices d'activité publiés ce matin en Europe montrent un nouveau ralentissement de la croissance économique. Alors si on revient en valeur, Vallourec, le groupe parapétrolier, bondit de 18%, car la société a exclu le recours à une augmentation de capital que redoutaient les opérateurs. Fnac Darty, de son côté, gagne 4,4% après avoir augmenté de 20% son bénéfice l'an dernier. Et à l'inverse, un autre groupe pétrolier, Technip FMC, chute de 7,4% après avoir accru fortement ses pertes en fin d'année. Et Accor, dont on parlait, eh bien Accor décroche de 3,6% puisque le nouveau contrat de sponsoring signé avec le PSG pèsera sur les résultats en 2019 et 2020. Vous voyez, Quentin, la bourse est plutôt calme en surface, mais agitée en profondeur.
Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces explications, Rémi. Le Bailly à la Bourse de Paris.